Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Une moto, je cite, très longue et qui se conduit cool. Un moteur qui envoie le bois tout de suite. C'est pas des chevaux de trait, ça cause. Quelles sont celles et ceux qui montent sur cette moto ? On les appelle les bikers. Et si ça se trouve avec leurs tatouages, ils sont des millions à être ainsi tatoués dans le monde, ils ont sauvé la marque de leur héroïne. Surpris par la nuit, 1%, 100% bikers, par Michel Vignard, réalisation Angélique Thibault, première diffusion sur France Culture, le 22 mars 2004.
Surpris par la nuit.
C'est assez extraordinaire. On entend les soupapes qui s'ouvrent, on entend le bruit de l'aspiration du carburateur. C'est vraiment extraordinaire. Moi, le premier Harley que j'ai eu, j'ai passé des nuits à l'écouter dans mon garage. Des heures, je rentrais et hop, je l'écoutais tourner au ralenti, je l'écoutais tout le temps, cette moto. J'écoutais quand elle refroidissait aussi, parce qu'il y avait les chromes qui sonnait un peu comme ça, c'était amusant.
Vers 1980, il y a en Amérique un groupe d'individus qui aiment gambader dans les montagnes et les plaines de leur merveilleuse patrie. Vers 1880, il y avait en Amérique un groupe d'individus qui aimaient gambader dans les montagnes et les plaines de leur merveilleuse patrie. Ils aiment sentir le vent sur leur visage et le soleil sur leur corps. Ils étaient proches de la nature et avaient un sens particulier de la liberté individuelle. Ils s'habillaient de cuir et se sont créés leur propre style. Ils avaient souvent les cheveux longs et certains portaient des boucles d'oreilles. Ils aimaient se réunir autour d'un feu de camp pour fêter l'amitié. Ils se divisaient en de nombreux clans et clubs et associations qui ont leur propre chef. Ils se portent cependant une méfiance mutuelle et leurs leaders se disputent sans cesse. Ils ne parvirent jamais à fusionner leur clan, leur groupe et leur bande. On les appelait les Indiens. On les appelle les bikers. Et il va de soi que ni le gouvernement, ni les éternels fanfarons et apôtres de la morale de la société n'aiment les bikers. Car ceux-ci sont différents et les gens qui pensent et vivent autrement sont toujours considérés comme une menace. Le gouvernement a donc édicté des lois qui limitent les droits des bikers et restreignent leur liberté. Nous nous demandons jusqu'où cela ira. L'histoire est-elle sur le point de se répéter ? Enfermera-t-on un jour ? Cycliste ou motard, telle est la traduction du mot biker. Le biker évoque aussi dans l'imaginaire collectif un mythe du XXe siècle, célébré au cinéma par le film Easy Rider, celui de la Harley Davidson. Les 100 ans de la firme de Milwaukee et le travail d'un photographe fou de motard ont été l'occasion de rencontrer quelques-uns des sectateurs de ce culte étrange de la route. Plaisir de la mécanique, goût de la musique, soif de beauté et de liberté, voilà ce qu'incarne aux yeux des bikers cet engin hors norme, une moto. Une moto à leur image, singulière et complexe. 1%, 100% bikers, une émission de Michel Vignard, réalisé par Angélique Thibault.
Le 4 juillet 1947, on fêtait la fête d'indépendance, la fête nationale aux États-Unis. Et dans un petit village de Californie, du nom de Hollister, il y a eu une course de moto organisée. Et à cette course, se sont pointés des jeunes motards en Harley ou en Indian ou autre chose, qui pour la plupart revenaient du front, qui avaient fait la Deuxième Guerre mondiale et qui avaient envie de s'amuser un peu, de faire un peu les sauvages, on va dire. Et ils ont plus ou moins mis la ville à sac. Enfin, ça, c'est tout au moins ce qui a été mentionné dans le magazine Life le 21 juillet 47. Il y a eu un article très court, un article de 110 mots, qu'on a d'ailleurs appelé l'article de 110 mots de Life Magazine, qui a été publié avec une photo d'un biker imbibé de bière sur sa moto, sale, on aurait dit un clochard qui avait une bouteille de bière dans chaque main. Il s'est avéré d'ailleurs que la photo était posée, c'était même pas sa moto, c'était sans doute véritablement un clochard qui avait été photographié par le photographe de Life. Et donc cet article de 110 mots a fait scandale à travers les États-Unis, a fait peur à tout le monde. Et sur ce, l'AMA, qui était l'association officielle des motards américains, on va dire entre guillemets les gentils motards, l'AMA a déclaré qu'il ne fallait pas s'affoler, que finalement ces mauvais garçons ne représentaient que 1% de la société motard, de motocyclistes aux États-Unis. Donc c'était absolument risible et il n'y avait pas lieu de s'en inquiéter. Et ces types-là ont évidemment été exclus de l'AMA, enfin exclus, ou tout au moins il leur était interdit de faire partie de l'AMA, ce qui leur était franchement égal. Ils avaient déjà leur propre club. C'était aussi le début donc de tous ces clubs, les Booze Fighters, même les Hells Angels ont commencé leur activité à cette époque-là en Californie. Et le fait d'appartenir à ces 1% de motards exclus de la bonne société motocycliste était pour eux plutôt flatteur qu'autre chose. Donc ils se sont brodés des petits écussons, des petits losanges avec inscrit 1% au milieu qu'ils arboraient sur leur liquette. C'est tout simplement le début de la légende du 1%. Le mieux, c'est de rester par là, en fait. Voilà, c'est le mieux, parce qu'il y a de l'huile partout. Je sais exactement où sont les taches, donc je les évite, moi. Voilà, donc, oui, on est dans le garage. C'est un peu le fouillis. Il ne reste que 3 motos. Il y en avait une encore ici, il n'y a pas très longtemps. Des motos de course, donc.
Donc là, on est dans votre garage, c'est en fait un box d'immeuble, c'est pas très grand.
Ah, c'est pas très grand, non, c'est un box pour garer une voiture, hein, tout au plus, mais qui est saturé avec les 3 motos, l'établi au fond, les outils, d'ailleurs qui sont quasiment que des outils des années 40, des outils Harley-Davidson, de vieux outils qui sont là pour la déco, et dans la caisse à outils, il y a tous les outils américains modernes dont je me sers... quand je bricole. Sinon, des étagères avec les fameuses petites boîtes orangées noires. Alors ça, dans le milieu Harley, ceux qui s'intéressent un peu à l'ancienne savent exactement de quoi il s'agit. Hein. Ce sont les emballages de pièces détachées d'origine Harley des années 40 qui n'ont jamais été ouvertes depuis et qu'on trouve encore en cherchant bien. Donc il y a les fameuses petites boîtes orangées noires, un petit peu de pin-up, un petit peu de...
Votre blouson. De cuir blanc à bande.
Oui, bah ça c'est la combi qui a été faite aux États-Unis par contre par une petite mamie aussi. Hein. J'ai une prédilection pour le troisième âge dans le milieu de l'Harley, c'est vrai. Une petite mamie qui fabrique les combis en cuir pour Harley depuis la fin des années 60. C'est tout un milieu de petites mamies, de petits papis qui ont des histoires passionnantes à raconter et puis. Qui sortent du lot par rapport à beaucoup de gens qu'on peut rencontrer dans ce milieu, parce que ce milieu, en fait, c'est comme tout le reste de la société, il y a du bon et du moins bon. Enfin, c'est tout un milieu, le système d'alarme quand même, on ne sait jamais.
Et vos motos qui reposent sur de beaux tapis d'appartement?
Ah oui, oui, alors ça, j'ai vu ça dans un magasin à New York, une espèce de magasin de cosmétiques très très chic, dont la famille des propriétaires a collectionné des Harley pendant plusieurs générations. Et ce magasin étant à une adresse très prestigieuse, étant un magasin très chic, ils ont quand même eu envie d'exposer des Harley dans ce magasin de cosmétiques haut de gamme, mais chaque Harley est présenté sur un tapis persan. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment très très chic, et je me suis dit non, après tout, un tapis persan c'est très bien pour absorber l'huile, et puis ça donne ce petit côté un peu anachronique, un petit peu... Ce sont deux extrêmes, le petit tapis persan avec la moto dessus qui pisse de l'huile. J'ai trouvé ça très amusant.
Harley Davidson Club Les Gueules Noires.
Bonjour.
Bonjour.
Attendez. Faites pas attention parce qu'on vient d'avoir une petite fille, nous. Bonjour.
Alors, n'ayez pas peur. Montez pas sur le vélo de ma fille.
Louis le Diable.
Oui. Bonjour.
Bonjour. Ah, d'abord, c'est un nom, Louis le Diable.
C'est un pseudonyme, ouais.
Qui c'est qui vous l'a donné?
Bon, c'est dans le milieu Harley, parce que bon, je suis toujours en train de faire des conneries et tout. Et puis une fois dans la banlieue parisienne, on était au rassemblement Harley Gaulois Morphal. Et puis il y avait une petite église qui était là à côté. Je me suis accroché au mur, je suis rentré dedans et malheureusement, il y avait un baptême qui était en train de s'effectuer. Le curé il m'a poursuivi, alors j'étais là, le diable, en plus déguisé un peu. Pour qu'il m'a gardé le souvenir, Louis le Diable. Voilà.
Et en dehors de ce nom, je crois que vous avez une caractéristique.
Laquelle?
Laquelle?
Laquelle, ouais.
Je crois que vous avez un tatouage.
Un beau tatouage, ouais. Il est long.
En photo.
En photo. Bah, il y a comme ça que je peux le voir, parce que je vais pas toujours me promener avec un miroir.
Parce qu'il est sur le dos.
Il est dans mon dos, ouais.
Et on peut le voir en vrai?
Bah bien sûr. Vous n'allez pas tomber dans les pommes? Voilà. Ça représente ma vie. C'est-à-dire que bon, le musicien, c'est mon père, qui est décédé. Le joueur de bière, c'est un de mes meilleurs amis, qui a toujours un bar, mais enfin, il a un bar sur Bourg-en-Artois. Stéphane Blanchard. Et sur la moto, il y a moi et mon président de club, Yves Jonville. Et puis Easy Rider, le mythe Harley Davidson. Et en fond, vous pouvez voir que c'est une étiquette Jack Daniels. Beaucoup de bikers apprécient cet alcool là-bas. Donc, qui représente le fond du tatouage. Quoi.
Et donc, les trois figures, hein, votre père, oui. le joueur de billard et les bikers, en fait,
oui.
sont superposées.
Oui.
Elles fusionnent l'une dans l'autre.
Ben, si vous préférez, bon, le tatouage, à la base, je voulais faire un rockers, mais bon, ça se voit de plus en plus. Et puis mon père était un joueur de guitare, et il a connu des grands comme Stéphane Crapelli, Django Reinhardt, tout ça. Puis à l'époque, ces gens-là sont montés plus sur Paris. Et lui, il y avait une famille à nourrir, il n'a pas suivi, quoi, parce que bon, la musique, ça, à l'époque, ça payait pas, quoi. Alors j'ai voulu rendre un petit peu un hommage à mon père, en le mettant en tatouage. D'abord, ma mère, elle a failli tomber quand elle a vu le tatouage, quoi. Il a fallu qu'elle s'assoie, hein, parce que tellement c'est réaliste, on a vraiment l'impression qu'il va se mettre à jouer, quoi. Donc voilà.
Il a mis combien de temps pour faire
ce tatouage pour Nels? Vous allez rire, il y a 122 heures de travail et 300 heures de bain. Parce que quand je sortais après 3-4 heures de séance, je peux vous dire que y a des endroits où ça fait vraiment mal, quoi. Mais bon, on fait. C'est pour ça que moi, un petit peu, le Jack Daniels s'est coulé, quoi.
Et c'est vraiment. C'est une fresque.
C'est une fresque, oui.
Comme sur un mur à.
Voilà. Ben, y avait le. À San Francisco, on avait rencontré le. le propriétaire du musée de tatouage à San Francisco, il était intéressé, quoi. C'est ma femme qui était plus du tout d'accord, quoi. Mais bon, tant qu'à faire.
Il était intéressé pour lever le morceau de peau ou...
pour, bah oui, mais s'il m'arrivait quelque chose, de venir le prendre, quoi. Tant qu'à faire, pourquoi pas. Bah, de toute façon, quand on est mort, on est dans le trou. Au lieu d'aller au vert, il ira sur un mur, et puis on sera éternel, quelque part. Un job, ça reste toujours éternel.
Cette machine, en fait, est le fruit de nombreuses réflexions de la part de sa propriétaire, puisque c'est une jeune femme, donc en fait, qui a voulu se faire plaisir au bout de quelques années, effectivement, de roulage, on va dire, avec une machine d'origine. Elle a voulu se faire plaisir, donc en participant à la construction d'une machine complète de A à Z, en fait. Hein, donc, on est parti du cadre, de l'ossature brute, métallique. Et donc pour tout construire autour ensuite, donc au niveau, on a mis en place le moteur, donc on a commandé chez Harley Davidson. Donc ensuite, bon, on a composé les roues, les éléments de freinage. Nous avons fabriqué les têtes fourches qui sont sur mesure, guidons, tout ce qui est adaptation de réservoir, les platines de fixation sur le cadre, toute la carrosserie arrière, en fait, qui colle le plus possible au pneu, dans la mesure où c'est un cadre rigide, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suspension. C'est un cadre avec un simple berceau. Il n'y a pas d'opposition de masse, comme ça peut l'être sur un cadre à suspension d'origine, où vous avez un bras oscillant et un cadre. Là, en fait, c'est un seul ensemble.
C'est ce qu'on appelle une rigide.
C'est ce qu'on appelle un cadre, une partie cycle rigide.
Et ça donne quel effet au niveau de la conduite, hein?
C'est-à-dire que tous les petits trous, les petits soubresauts de la route, vous les prenez dans les vertèbres. En clair, c'est ça. En clair, c'est les vertèbres qui font suspension. Donc, en général, c'est vrai que c'est plutôt, on conduit ça dans la première partie de sa vie, et puis ensuite, on passe sur des cadres plutôt suspendus, plutôt confort, avec de bonnes grosses selles. Voilà, grosso modo, c'est
Frédéric Tomayan.
Mais disons que c'est le rigide et le style que j'affectionne le plus, dans la mesure où ça reste malgré tout le seul moyen de faire des machines légères, fluides à l'œil. Le chopper, en fait, tout l'art du chopper, ça reste une philosophie de légèreté et de simplicité. Quelle que soit la moto qu'on construise, qu'elle soit longue et élancée, fine ou compacte et basse, on a toujours cette même idée de recherche d'aller à l'essentiel et d'éviter le maximum de fioritures. Là, on est quasiment au bout, donc on va faire les premiers essais sur route. Et en fait, c'est là que commencent les surprises. En fait, on peut croire qu'une fois que la moto est terminée, qu'on en a terminé avec les problèmes, mais en fait, les problèmes commencent quand la moto commence à rouler. Parce qu'en général, un rigide fait beaucoup de vibrations, et c'est là que commence effectivement à vibrer les boulons par-ci par-là, quelques rondelles par-ci par-là qui vibrent, des câbles qui frottent, etc. Donc on est là pour faire une cinquantaine, une centaine de kilomètres et pour voir après si tout se passe bien et revenir effectivement de manière à fournir au client une machine qui soit saine, quoi. Qui soit saine et qui fonctionne bien. Voilà.
Elle a une couleur absolument indéfinissable. Comment vous l'avez définie, cette couleur ?
On a eu du mal. On a eu du mal à cette couleur parce qu'elle souhaitait en fait une couleur qui en soit plusieurs, en fait. Donc là, on a un mélange de crème avec des reflets grisés. Et selon les orientations de lumière qu'on peut lui donner, elle a aussi du rosé à l'intérieur. C'est un nacré champagne, en fait, qui tire vers les beiges plutôt que les gris. Donc là, en fait, en travaillant sur du clair, c'est assez intéressant parce qu'on a une autre optique des pièces, et les pièces ressortent différemment, en fait. Le métal, l'inox, les alus ressortent beaucoup mieux. Par contre, c'est quand même beaucoup plus difficile à travailler en matière de finition. C'est-à-dire que là, sur le cas présent, pour tout le passage des câbles, on est obligé de travailler sur des couleurs inox tressées, des durites blanches, de manière à ce que ça se voit le moins possible, parce que le noir aurait tendance à choquer si on l'avait mis à outrance, sur la partie cycle, quoi.
C'est une moto très nue, presque nue.
Il n'y a quasiment rien, je crois qu'il y a le strict minimum, hein. C'est vraiment le le côté le plus épuré possible, c'est ce qu'elle souhaitait aussi. Puis c'est la façon dont on conçoit la chose, je dirais. Il n'y a pas grand intérêt à ajouter des choses, effectivement, là où il n'y en a pas besoin. Donc on laisse uniquement ce qu'il faut.
J'ai une Harley Davidson. Et puis j'ai aussi un mulet, une vieille 250 XL Honda pour pouvoir me déplacer rapidement et sans trop de problèmes dans Paris quand il fait pas beau, quand j'ai juste une course comme ça à aller faire. Parce que bon, c'est vrai que ma moto, c'est un rituel pour la mettre en route. Et puis d'autre part, c'est une machine que je possède depuis 1986. Celle-ci, c'est ma deuxième Harley. Et donc, j'y tiens quand même beaucoup. Donc, je l'entretiens. J'essaye de la conserver le plus propre possible. Alors, elle est pas d'origine. Hein, je veux dire, elle a subi de nombreuses transformations. Et je l'ai fait repeindre plusieurs fois. Mais j'essaye de la conserver dans le meilleur état possible. À l'origine, c'est un modèle Softail. C'est un des modèles les plus. C'était un des best-sellers en fait de la gamme. Donc, j'en ai eu un peu marre de voir la moto partout. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à la repeindre avec des couleurs que j'avais choisies. Et puis après, j'ai commencé à faire des transformations dessus, des transformations de plus en plus radicales. Alors, un jour, ça a été, j'ai changé le garde-boue, et puis une autre année, j'ai fait rallonger le cadre, j'ai fait rabaisser la moto, j'ai changé la fourche, j'ai mis une fourche différente et plus étroite, j'ai changé les roues, voilà, quoi. Et maintenant, c'est une moto complètement, unique, en fait, qui correspond à un certain style. Au niveau du custom, qu'on pourrait définir comme ça, de californien un peu. Cette moto très longue, qui se conduit cool.
Alors là, voilà le bébé. Le bébé, dans toute sa splendeur, il n'est pas très propre. Mais bon, il est vrai que je roule pas mal, même l'hiver, donc voilà.
Et alors ce bébé, vous pouvez le décrire, vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est?
Ah ben oui, c'est une base de Harley, Dyna, Lowrider, un 1340. C'est un trike avec l'arrière de Servicar. Voilà, un peu modifié bien sûr, parce que comme j'ai un petit handicap, il me manque la jambe droite. Donc la jambe gauche, je peux passer les vitesses, il n'y a pas de souci. Et on a passé les commandes de frein à gauche également.
Donc un trike?
Un trike, c'est une moto à trois roues. Voilà.
Et vous l'avez voulu comme ça, cette...
Par rapport à mon handicap, il me fallait un trike, je ne peux plus avoir de moto. Et puis effectivement... La base, je la voulais comme ça, c'est-à-dire avec des grosses roues, pures, simples, et assez fonctionnelles pour moi. Ouais.
Et avec un décor?
Ah oui, un peu personnalisé, oui, effectivement. De base, sur la base d'avion des armées de l'air américaines, un peu clouté, là, enfin un dessin, quoi. Mais sympa, avec un petit peu des flamings, et puis voilà. La croix derrière, on ne la voit pas parce que j'ai le top maintenant. La croix de Jesse James, la croix de Malte.
Le top.
Le top de cuir qu'il y a derrière, là, Harley.
Espèce de coffre.
Espèce de coffre qui est obligée d'exister car dedans j'ai mes béquilles pliables. Donc voilà, alors j'arrive, j'ouvre le coffre et comme par magie, j'ai des béquilles qui se déplient. Voilà. Voilà comment je peux arriver. À me déplacer après en lâchant le trike avec les béquilles pliables. Et voilà. Béquilles.
C'est un carrosse.
Voilà, c'est un carrosse. C'est assez.
On peut l'entendre?
On peut l'entendre, oui. Par pardon.
Combien de kilomètres par semaine?
Attendez, là il fait un peu froid, mais bon, sinon entre 100 et 200 kilomètres par semaine. Sinon, après, c'est un jour sur deux, parce que les autres jours je suis un peu fatiguée. J'ai des séances de dialyse qui me fatiguent pas mal, donc un jour sur deux je prends la moto. Et le week-end, bien sûr.
Quel âge vous avez commencé à monter?
Moi, je crois que ça a toujours été, parce que papa en avait une, déjà. Et puis, les 18 ans passés, on a passé le permis. Et puis, il a fallu avoir la moto, avoir la voiture. Et puis, voilà. Et voilà. Comme quoi. Et puis, bon, j'ai eu une petite coupure, évidemment. Dans les deux sens du terme. Puisque j'ai eu un accident. Et il a fallu attendre... 10 ans avant que je puisse avoir le bébé, là, que voilà. Parce que j'ai fait 8 ans dans les hôpitaux, et puis après, le temps de récupérer un petit peu. Le temps qu'on me fasse le trike, ce qui fait que ça fait 3-4 ans maintenant que je suis retournée à la moto. Ouais.
Vous y avez rêvé à cette moto d'après?
Ah, jour et nuit, quand j'étais à réanimation. J'entendais, il y avait des infirmiers qui passaient, qui arrivaient, je savais l'heure à qui allait arriver. Galère. Oui, oui, ça a été toujours mon but, de pouvoir un jour remonter sur une moto. 9 mois. Comme quoi, quand je dis c'est mon bébé, 9 mois pour le faire. Ouais.
Vous aviez des amis, des copines qui, comme vous, avaient une moto, ou vous étiez au fond la seule fille parmi les garçons?
À l'époque, puisque bon, ça fait plus de... Ah, attendez, je réfléchis un peu. Plus de 20 ans, bon oui, 25 ans. C'est vrai que j'étais une des seules parmi une bande de deux copains à avoir une moto. Il y avait des filles, mais elles étaient derrière. Mais bon, moi j'avais ma moto. Et c'est vrai que bon, c'est appréciable d'avoir son propre engin. Derrière, je ne pouvais pas. Derrière, ce n'était pas possible pour moi.
C'est notre monde.
Ah oui, 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 complètement. D'ailleurs, la seule fois que je suis passée derrière... J'ai eu un problème, oui. Ma moto était tombée en panne. Et j'ai insisté pour monter derrière quelqu'un d'autre. Et puis, je suis jamais arrivée à destination. Voilà, donc... c'est vrai qu'au tout début où je commençais à faire la moto, il y avait très, très peu de filles. Tandis que maintenant, je vous dis, c'est vraiment très, très courant.
Aujourd'hui, dans le milieu biker, quand Ghislaine arrive sur son...
Il y a déjà deux. Bon, le trike, c'est vrai, qui est sympa. Bon, déjà, on voit le trike. Puis après, on voit la première bête. Puis après, on voit la seconde, c'est-à-dire moi. Et il me voit me déplacer avec mes béquilles. Et... Donc, sur une jambe. Donc là, c'est vrai que ça surprend un petit peu. Mais bon, après, ils s'y habituent. Ils font comme les autres. Au départ, des fois, ils disent « Ah, tu t'es cassé quelque chose. » Je dis « Oui. » Cassé parce que ça se voit pas vraiment, mais les jupes longues, enfin bref. Mais c'est vrai que sur la moto, effectivement, du côté où il manque la jambe, il y a l'effet qui se coule, quoi. C'est-à-dire, première réaction, le trike, puis seconde réaction, pas de jambe. Comment elle fait pour rester là-dessus? Voilà, c'est tout.
Vous devez être coucouné. Vous devez être...
Pas trop, non. J'ai remis à l'ordre des fois. Hein. Ils y pensent plus, non. justement, c'est pas le... absolument pas. Parce que c'est vrai que les copains, ils pensent plus. Des fois, j'ai dit, alors, j'y voyais pas que je suis handicapée, j'ai le casque, j'ai le sang, il n'y a pas un qui bouge. Mais c'est vrai, en plus, ils y pensent plus. Donc, je ne remets pas l'ordre de temps en temps. Mais c'est vrai. C'est bon, tu vas pouvoir marcher.
Date sur un siècle d'histoire, c'est quasiment impossible. Hein. On peut sortir quelques dates clés. Hein. Bon, ben évidemment, 1903 qui marque officiellement les débuts de la marque, même
si Charlie Lecache, polémique, je suis employé par le magazine Freeway, et puis je me considère comme un historien de la moto américaine, non seulement de l'Harley, mais enfin de toutes les motos américaines qui ont existé.
On peut parler de la Première Guerre mondiale qui représente quand même la première grosse production en masse d'Harley, avec notamment les premières importations en masse également en Europe, lorsque les motos sont arrivées avec l'armée alliée. Il y a eu ensuite la dépression économique aux États-Unis qui a failli coûter la vie à la firme Harley-Davidson, qui a pris la bonne décision, très très audacieuse à l'époque, au lieu de sortir des modèles économiques qui auraient été évidemment en phase avec l'ambiance de l'époque, de mettre au point un modèle de luxe avec un moteur très en avance sur son temps, un moteur à soupape en tête, on va dire, qui est sorti en 1936 et qui a sauvé la firme de la débâcle. Et ce moteur a donné naissance ensuite à toutes les générations de moteurs suivants jusqu'au Twin Cam, qui est encore en production actuellement et qui reprend la même architecture. C'est-à-dire c'est un bicylindre en V à 45 degrés avec l'arbre à cam dans le carter de distribution en bas, enfin. Mais tout ça pour dire que c'est un moteur qui a très très peu évolué de 1936 à nos jours. Il y a eu ensuite la Deuxième Guerre mondiale avec plus de 80 000 motos produites pour les armées alliées. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? L'introduction du démarreur électrique en 1965, alors là aussi une petite révolution chez Harley. Alors l'introduction du démarreur électrique qui a donné naissance à l'Electra Glide, qui est devenu le modèle mythique utilisé par la police pendant les années 70-80, avant d'être détrôné par les Kawasaki et avant de revenir dans les services de police actuellement aux États-Unis en nombre. Harley a traversé, on va dire, sa dernière grosse crise en 1986, c'est-à-dire que moteur évolution qui a sauvé Harley une autre fois, était déjà sorti en 1984. Et deux ans après, Harley a failli encore faire faillite. Et heureusement, il y a eu un groupe de financiers aux États-Unis qui a eu confiance en cette image d'Harley Davidson. Il y a quelque chose d'ailleurs qui les a mis en confiance, c'était qu'il fallait absolument sauver une marque telle que Harley Davidson, parce que c'était quand même le seul nom déposé que les gens se faisaient tatouer sur la peau. On verra rarement un tatouage Peugeot ou un tatouage Renault ou un tatouage Microsoft. Alors qu'Harley Davidson, des tatouages, il y en a des milliers à travers le monde, des millions même. Donc ça a été vraiment l'argument idiot qui, en 86, a donné confiance à un groupe de financiers et qui a sauvé Harley une dernière fois de la débâcle. Et maintenant, Harley Davidson se porte de mieux en mieux.
Ma Morissette, voilà une bikeuse. Elle n'a jamais été bikeuse, mais elle fait partie du club.
Oui. Bonjour, messieurs. Bonjour, chérie. Oui.
Voilà, Morissette, elle prend toujours sa carte du club. Voilà.
Ah, ouais,
elle a quatre mêmes années. Et puis elle a toujours la carte du club.
J'ai fait mon pompier. Nous,
quand on monte à Paris avec Louis Pétrolette, on mettait deux jours pour arriver à Paris parce qu'il fallait s'arrêter. C'est les 7h30 comme ça. Et t'allais pas loin. Et voilà, là, on avait déjà des costumes qui étaient beaux. Tu vois, ça mettait un blanc avec des motos qui pissent l'huile, qui pissent tout et qui. Et t'étais pas sûr de faire 200 km sans t'arrêter.
Alors, et c'était quoi le plaisir là? Parce que bon,
Le plaisir, c'était quand la libération s'est produite, il y a eu les Ricains qui ont débarqué. Moi, j'étais là pour la libération des trucs. Alors, ils débarquaient, ils avaient ces motos. Mais quand tu voyais ces Ricains, ces motos qui semblaient des monstres et qui nous libéraient, qu'on ne mangeait pas depuis 6 mois, 1 an ou 2 ans ou 3 ans, et les libérateurs, ils nous donnaient des trucs et ils étaient beaux comme le soleil, comme les mecs en Jeep. Les jeeps, c'est pareil, on peut clore la jeep. Et la jeep, il n'y en a pas beaucoup qui les ont pris, mais l'arnée, on voulait rouler. Oh, Doudou!
Avec le téléphone pas à roulage. Et tu roules, tu téléphones, sûr que tu rates la route. Il ne faut pas rouler quand tu as un téléphone.
Donc là, on est dans l'Electra Glide Café.
Voilà, alors... quand mon ami Raoul, ça a toujours été mon copain, voilà. Et il a ouvert ce café donc, il y a une quinzaine d'années maintenant, et j'ai pris le siège ici. Et c'est sympa. Et t'as pas la caméra, m'a dit, t'as mis la caméra, toi, la blondie.
Vous avez créé donc le premier club français de Harley Davidson,
oui,
c'était en
69.
69.
En 69. Et 69, il y en avait en France, on devait en avoir 30. Harley. Et que des 7,5, et puis les premiers panels, et plus 30 ou 40, c'est tout. Après, dans Woodigine est venu, la fin de Woodigine, est venu l'évolution, et maintenant, toutes les grosses pipes se mettent Hog. L'Hog, ça veut dire donc Harley Davidson, ça veut dire en français, donc possesseur, celui qui achète une Harley, à crédit, on lui file le carte. Il est membre donc du club Hog. Harley Owen Group, donc possesseur dans les Davidson, c'est tout. Et ça, ce ne sont pas des HDC, les Hog. Les Hog, ce sont des Hog, et maintenant ils ont tous leurs trucs avec Hog. Ah ouais, donne-moi un Jack Dac. Et toi aussi? 2, 3.
Et alors, il paraît, Pépé, que vous avez même eu une rue à votre nom, à Cannes.
Alors, oui, alors c'est là-haut, voilà. La mairie m'a donné pour 15 jours la rue.
Donc pendant 15 jours, cette rue s'est appelée comment?
Ah oui, comme ça. Rue Robert Montet, dit Pépé, et voilà, président Harley Davidson. Mais on a un truc, il y avait le maire, on a inauguré la rue et tout, comme ça.
En grande pompe.
Attends, c'est pas un boulevard, c'est par la croisette, hein. Et mon Jacques, au Bénit.
Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais personne ne se lavait. Les ongles pleins de cambouis sur le biceps, il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur, on lisait « Maman, je t'aime ». Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout sa chaîne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon sème la terreur dans toute la région.
Vitesse, vitesse. Moi, c'est surtout la vitesse. Je veux être le plus rapide.
Bonjour.
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 Bonjour. C'était quoi à l'origine ?
C'était un cinéma.
C'était un cinéma ?
Ouais. Cinéma, ensuite, ça a été un magasin de confection layette. Après, c'était un garage Fiat. Ça a été à l'abandon, et puis après on est parti. J'étais troisième en championnat de France. Bon, je suis le seul pilote en fait dans ma catégorie, hein, donc en Super Twin Top Gaz, donc drag Harley. Hein. Par contre, je suis actuellement 16e en championnat d'Europe, donc seul français depuis 5 ans en championnat d'Europe. Je me suis lancé dans la restauration de voitures américaines, et j'avais préparé une voiture pour rouler en ville, mais avec un moteur de 500 chevaux à compresseur. Et j'ai été l'essayer comme ça sur une piste de drague avec des copains pour rigoler. Et vu que j'ai réussi à faire des bons temps, je me suis lancé d'abord dans le drag voiture. Donc j'ai fait 7 ans de dragster voiture. Et j'ai eu l'idée de repartir en drag moto. Ce qui est plus impressionnant que le drag voiture. Prenez ma machine, elle m'arrive aux genoux en fait. Hein. Donc c'est hyper bas, très très long, on est couché dessus. Et bon, on a une impression de puissance énorme, quoi. Ça accélère du départ jusqu'à la fin des 400 mètres, ça accélère tant qu'on ne coupe pas, ça prend des tours sans arrêt, quoi. Donc c'est de l'adrénaline à 100%, quoi. C'est vraiment coup de pied au cul, quoi.
Pendant les premières courses, on courait sur des motodromes, c'est-à-dire c'était des circuits en bois avec les virages relevés, un peu comme les vélodromes qui existent encore aujourd'hui. Et sur ces motodromes, on tournait à 160 km/h sans frein, c'est-à-dire il n'y avait pas de frein ni à l'avant ni à l'arrière, comme sur les vélos de course qui tournent encore aujourd'hui sur les vélodromes, sauf que ce n'était pas la même vitesse, c'était 160 km/h, sans aucun frein. Les pistes étaient souvent en très mauvais état, on se cassait la figure les uns sur les autres, les pilotes se prenaient des échardes dans le corps, des échardes monstrueuses de 30 cm parfois. Et il y avait des morts régulièrement. C'était plus une attraction de foire qu'une compétition à l'époque. D'ailleurs, souvent, les motodromes étaient installés à côté des fêtes foraines. L'ambiance était inimaginable et les motodromes ont connu un déclin à partir du moment où il y a eu, en 1912, un accident dans New Jersey qui a fait 8 morts, dont 4 ou 5 spectateurs qui ont été décapités par les motos qui sont sortis du circuit, si vous voulez. Les spectateurs penchaient leur tête vers l'intérieur du bol, du motodrome, pour regarder ce qui se passait. Et quand une moto faisait un dérapage, une sortie, et ben c'était les spectateurs qui trinquaient. Donc à partir de ce moment-là, les motodromes ont commencé à connaître un léger déclin. Et puis en 1920-24, c'était la fin de ces courses-là. Enfin, on est passé à d'autres choses qui étaient à peine moins dangereuses.
Le nouveau bébé. On participe Weekend Frame. Donc moteur prototype en 2,7 litres de cylindrée. Donc alimenté par deux carbus. Et là je pense qu'on va passer à 5 carburateurs dessus. Donc une participe de drag, ça se compose d'un cadre rigide, hein, tubulaire. Donc là il est en chrome molly. La poutre centrale, c'est le réservoir d'essence de la machine. Il y a à peu près 1,5 litre, 2 litres d'essence dedans. C'est juste assez pour faire 400 mètres. Donc voilà, les deux autres parties du cadre, les berceaux, en fait, c'est les réserves d'air pour le shifter. Donc le cadre est sous pression tout le temps. Hein. Bon ben voilà, voilà la machine. Donc un gommard énorme à l'arrière hein, pour l'adhérence. Et
un
Willy
gommard,
bar.
C'est une espèce de queue en fait.
Non, en fait, la queue que vous avez là, c'est les Willy bar hein, pour éviter de se retourner à l'accélération. Donc pneu slick, hein, mais gomme très très tendre, type bar externe uniquement. Hein.
Très large.
Pour avoir le meilleur adhérence possible. Donc alors, bah, tout ce qui est pression carburant dans chaque carburateur est sur informatique. Les entrées d'air sont sur informatique. Température des cylindres, pareil, sur informatique. Glissement d'embrayage sur informatique. Glissement de pneu arrière sur informatique. L'embrayage, pareil, sur informatique. Avec des possibilités de réglage suivant, bah, suivant la météo et compagnie, suivant l'hydrométrie en fait. Dès le départ, il faut être au top. Entre chaque run, on remodifie tous les réglages de la machine, suivant l'hydrométrie, suivant le changement de température, suivant la piste, hein, suivant l'adhérence de la piste. Pareil, on remodifie les embrayages et compagnie pour vraiment avoir le grip parfait dès le départ.
Ça pèse combien ?
En fait, la partie cycle complète sans le moteur boîte pèse 38 kg. Par rapport à la taille et compagnie.
Oui, la taille, ça fait combien d'envergure hein ?
Alors le drag fait à peu près, je crois, 2m30, 2m50 en longueur. Sans compter le Willy Bar, hein, qui mesure à peu près 2m50.
Et on se gamelle ?
Alors ça arrive, mais bon, on n'y pense pas trop, quoi. Je pense qu'un pilote de drag, c'est une personne qui a pas peur de la chute et compagnie. Bon, c'est le genre de truc qu'il faut pas penser, hein. Ou d'explosion de moteur. Hein. Bon, vu les essences, en cas d'explosion... Bah, ça part en torche, quoi. Bon, ça, on n'y pense pas, quoi. Ou le jour qu'on pense à la chute, bah, on arrête. Hein. C'est faut arrêter de courir.
During the race, the track was smooth and it had a groove about 2 feet wide. And I kept slipping off, so that is why I ended up in third place. Now, to answer your questions, I didn't see the Harley you sent the picture of. As you know, I wasn't in the Harley clip.
Les motos de course sont faites toutes à l'unité, de façon 100% artisanale. Elles ont chacune leur personnalité, elles ont chacune leur histoire, elles ont chacune leur palmarès, leur défaite. Et ça correspond très bien à l'histoire personnelle aussi de chaque coureur. Chaque moto a son histoire, chaque coureur a son palmarès. Et c'est quelque chose de formidable. Hein. C'est quelque chose qui ne s'explique pas franchement avec des mots. Il suffit d'aller une fois sur un circuit aux États-Unis de préférence et puis sentir cette odeur de toutes ces vieilles Harley, toutes ces vieilles Indianes qui étaient la marque concurrente. Donc de les voir tourner, de les entendre tourner, c'est tout un cocktail qui vous prend aux tripes et qui ne vous lâche plus. Hein. Quand vous tombez là-dedans, c'est un engrenage.
On en tombe amoureux très vite, quoi. Y a pas, hein. C'est vraiment spécifique, quoi. Et puis c'est la mécanique, pensée à l'américaine, quoi. La grosse mécanique lourde, pas très compliquée, pas très sophistiquée, mais avec un tas de petites combines qu'il faut connaître, quoi. Sinon, c'est vrai qu'on fait vite des catastrophes, quoi. J'en connais beaucoup très bons, excellents mécaniciens, hein, qui ont vu s'aventurer chez Harley sans connaître et qui ont fait des catastrophes, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu spécifique. C'est la mécanique à l'américaine, quoi. Voilà. C'est une puissance qui arrive très très vite en bas, quoi, hein, c'est un moteur qui envoie tout de suite, quoi, qui envoie le bois tout de suite, comme on dit. Un moteur de japonais, c'est beaucoup plus linéaire, quoi, c'est beaucoup plus de chevaux, hein, c'est pas de problème, quoi, mais on les ressent pas, les chevaux, on les ressent pas de la même façon, quoi. C'est pas des chevaux de trait, quoi, ça cause.
On en a eu un dimanche dernier avec nous, un 1600 Yam, là. Et on était quatre Harley, et puis il dit, ah ben on le voit quand il est à côté de nous. Ah, il est costaud, il a une très grosse moto, elle est magnifique, elle est toute customisée, mais bon, ils n'ont pas le bruit.
Il y a aussi un jeu à Daytona, par contre, qui est marrant, c'est la destruction des motos japonaises. C'est-à-dire qu'ils se sortent de stock car de moto japonaise. Voilà, ils se rendent dedans jusqu'à détruire les motos japonaises. Et il y a même des bistrots, des bistrots, c'est le mot français, la base appelle ça des saloons, où ils ont pendu dans les arbres des motos japonaises.
Ça fait 5 mois qu'elle n'a pas démarré. Comme quoi, le bon vieux Kik.
Bon, ben, je me présente, Bernard de Tournadre. Je suis un enseignant en éducation physique dans un lycée sur Marseille. Et ma deuxième activité, c'est la photo que je fais comme un amateur. Comme un
passionné. Je suis un spectateur, je suis quelqu'un qui est. Ils regardent, qui essaient de composer des images avec eux, mais je ne suis pas. Moi, je ne suis jamais monté sur une moto.
Et pas biker.
Pas du tout. Je ne connais rien à la moto. Mais rien. Je suis venu dans ce milieu-là par hasard. J'avais vu des photos d'un photographe américain qui s'appelait Carl de Keyer, qui était un photographe qui faisait à l'époque. Des panoramiques, ce qui était à l'époque assez rare, et j'avais vu des photos qu'il avait fait sur Daytona, et j'avais trouvé le lieu assez étrange, assez magique, et j'ai voulu y aller. Et en 99, je suis donc allé à Daytona. J'ai pas été déçu, j'y suis retourné en 2001, donc c'était cette fameuse Bike Week, donc la semaine de motards où descend à peu près 500 000, je crois, bikers. Sur un espace assez restreint. Je suis donc retourné en 2001 parce que j'avais un sentiment de manque pour faire des photos dans un genre assez spécial pour ce milieu-là, c'est-à-dire des photos qui essaient de raconter des petites histoires en noir et blanc avec mes vieux Leica. Voilà, et comme il y a une population qui est assez magique, je dirais assez extraordinaire, mais les situations sont nombreuses et c'est plus facile de sortir des petites scénettes.
Et alors, qu'est-ce qui frappe ? Je veux dire, quand on arrive comme ça, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on reçoit quand on n'est pas soi-même biker ?
Au début, on voit rien, on entend. C'est le bruit, c'est insupportable. Je veux dire, la première nuit, vous ne dormez pas, parce que les bikers ont une jouissance, je pense, à l'accélération. Ils aiment que la moto fasse ce bruit qui monte. Hein. Et donc, ils en profitent. Et comme il y a sans arrêt des motos qui démarrent, ça fait un bruit absolument insupportable. La première nuit, on ne dort pas. Ils ont une autre manie aussi, c'est quand ils arrivent, avant d'arrêter les gaz, ils mettent un petit coup pour... ça fait encore un bruit d'enfer. Juste avant de s'arrêter, ils accélèrent bien pour montrer qu'ils sont arrivés. Mais c'est un spectacle. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est que ça, c'est 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, vous avez des bikers qui défilent, qui, à vitesse très lente. C'est leur plaisir. Voilà. Puis j'ai eu l'opportunité de présenter ce travail à un éditeur. Les éditions Parenthèses, et j'ai proposé un projet de livre qui a été accepté. Et à ce moment-là, j'ai essayé d'être le plus complet possible sur ce monde des bikers. Et donc, je suis allé faire les deux autres concentrations qui sont les plus importantes. Il y avait Daytona, il y avait Sturgis, il y avait Laconia, il y avait le centenaire Harley-Davidson, et il y avait la Route 66. Et ce projet a été complété par une série de portraits que j'ai fait en France sur des personnages qui me semblaient représenter aussi ce milieu. C'est un regard d'un candide sur ce monde extraordinaire que sont ces passionnés de moto et d'Harley essentiellement. Thank you.
Je suis pas un fan de l'Amérique, c'est assez paradoxal, quoi. Je suis pas un grand fan des Américains d'une manière générale. Ce qui me plaît, c'est tout ce qui est un peu les mouvements de contre-culture aux États-Unis, comme le custom. Je suis Gabriel Dujardin, rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Wild Motorcycles, magazine entièrement dédié à la passion des V-twin américains, les Harley Davidson transformés et certaines manières de vivre aussi, qui est un peu hors des sentiers battus, un peu rebelle. Tous ces côtés-là m'intéressent, mais autrement l'Amérique, bon, c'est pas trop ma tasse de thé. Bon, ceci dit, j'avais aussi des images sur quand j'étais ado. Il y a un film qui a énormément marqué les esprits à cette époque-là, qui était Easy Rider. C'est un des premiers road movies. Un film qui, bon, maintenant, date un peu au niveau du scénario. Bon, c'était un scénario pas très bien construit, pas très étoffé. Mais bon, il y avait quand même des images extraordinaires dans ce film. Des images de liberté, de... l'idée de tailler la route, cheveux au vent, bon, en plus c'était la période post-hippie, avec tout ce que ça pouvait comporter, la drogue, le rock, et ainsi de suite. Donc bon, j'étais quand même marqué par cette image-là. Au Bahut, on écoutait le rock américain, le rock psychédélique, et ainsi de suite. Donc bon, moi je veux dire, j'ai fait mes expériences aussi. J'ai mis mes premiers joints, mes premiers acides et ainsi de suite. Donc bon, c'est mon univers quand même.
Il y a des valeurs qui sont associées quand même au monde des bikers. Il y a une certaine valeur de la fraternité, par exemple.
Ah oui.
Qu'on rencontre souvent.
Alors oui, c'est vrai que bon, ça peut être un peu dévoyé, mais bon, à l'origine, oui, c'est vrai que bon, les clubs sont des fraternités. C'est-à-dire, bon, bien souvent, dans les clubs, on s'appelle frangin, frère, c'est des micro-sociétés.
Donc la fraternité, la liberté.
Oui. Alors ça devient de plus en plus difficile à vivre. C'est vrai que, bon, on est de plus en plus confrontés aux problèmes de législation. C'est bon. En fait, pour la plupart, on conduit des motos qui sont pas du tout en conformité avec la législation. On transforme tout, on transforme le cadre, on rallonge, on coupe, on soude des bouts de tubes et tout. Donc bon, on est borderline un peu par rapport à ça. Et puis bon, bah il y a tous les problèmes de bruit, des échappements, de puis bon, la volonté de pas rouler comme les autres.
Alors vous pouvez nous dire un petit peu, quand vous roulez, comment vous organisez votre voyage?
Alors c'est une grosse responsabilité, parce que moi je dis toujours avant de partir, on fait un briefing quoi, avec l'ensemble des membres. Je dis parfois on part, on est 35-40 motards, et donc ça prend des proportions sur la route, il faut faire très attention. Donc moi ma fonction, et celle du road captain, c'est effectivement de vous emmener d'abord au voyage, mais c'est surtout de vous ramener. Donc ça c'est extrêmement important, et effectivement chez nous dès le départ ça se passe bien, bon, même s'il y a des petites mises au point à faire après quelques kilomètres, mais pour les nouveaux, mais il y a un gros respect effectivement de l'organisation, à savoir qu'il y a un road captain qui lui connaît parfaitement le trajet, donc qui a étudié avant, ou qui a déjà fait le trajet ou qui l'a étudié au niveau carte, donc c'est un spécialiste de la route qui est devant, et puis effectivement derrière il y a un officier de sécurité qui est chargé effectivement de garder le troupeau. Alors moi je m'appelle Philippe Mazingue, donc je suis le président du chapter de l'île Europe. Nous roulons tous en quinconce, et les directives sont très très strictes là-dessus, à savoir qu'il faut garder les écarts. Et les écarts sont proportionnels à la vitesse. À savoir que quand nous freinons, par exemple, bien sûr que le but c'est de ne pas se toucher, mais c'est pas aussi de laisser trop d'espace. Donc c'est valable au freinage et aussi à l'accélération. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que si ce n'était pas le cas, si c'était mal organisé, bon, les voitures doublent et se remettent entre deux dans la file. Et c'est très dangereux ça. Donc là on fait effectivement ce qu'on appelle une chenille, hein, et on est très très homogène. Donc ça c'est très important. Et je raconte toujours cette anecdote, c'est qu'on a fait en Barcelone 3300 km. On est parti le premier jour, on va y revenir le dernier jour. Tout le monde a gardé la même place. Il n'y a eu aucun changement. Donc c'est très important. Moi j'assiste, bon bah ça m'arrive de faire du caritatif avec d'autres motards, avec des jeunes et autres. Et c'est vrai que moi j'ai une frayeur pas possible, parce qu'on voit des motos que je ne citerai pas, mais doublées par la droite, par la gauche, c'est impossible. Hein, donc ça c'est extrêmement important.
la fraternité, la liberté, vous mettriez une autre valeur justement de cette culture ?
La rébellion, la fiesta aussi.
Le goût de la fête.
Le goût de la fête, ouais. Oui, bah, c'est un milieu où on aime bien se réunir. Ouais.
Entre bikers.
Oui, oui. Bon, maintenant, on essaye de s'ouvrir aussi. On essaye de communiquer cette passion au plus grand nombre. Donc, c'est pas forcément des fêtes qui sont fermées, au contraire. À une époque, c'était ça. C'était vraiment essayer de rester dans son propre milieu, de pas trop mélanger. Maintenant, c'est plus ouvert.
On montre toute forme de châssis, en général très soigné. La position est assez agressive. Et... il y a beaucoup de sourires autour. En particulier, il y a des concours de tout, des concours de miss, des concours de t-shirts mouillés. On jette le moteur, on mesure la grosseur du ventre aussi. Il y a des jeux, le biker qui a le plus gros ventre.
Le fameux jeu de la saucisse, un summum, qui consiste ni plus ni moins à suspendre une saucisse sur une, bien sûr, de la tremper dans la moutarde, forte si possible, et de passer dessous en moto avec une passagère qui, bien entendu, se charge de gober le maximum de saucisses. On mesure après le saucisse.
Voilà, il y a plein de petits jeux comme ça. Ça ressemble un peu... oui, c'est un peu la colonie de vacances, quoi. Colonie de vacances pour adultes. Stole the Hank magazine. And each time went home, I think of those lovely eyes. Ate some jello. I think and had a mellow, 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 so dear to me. Muelo. Had a swell time. And each year that I have known you, my life. I knew that my granny would be there. Each day, each hour, because I had a crush on her. It's pathetic, granny knew darling. That I smoked pell-mell. Ladies and gentlemen, do you like the band? Emmanuel Siger. Hein? On habite Comines France. Hein? On est dans le textile, nous, depuis... Enfin, mes parents et grands-parents, tout ça, depuis 1848. Je suis la cinquième génération. J'ai le fiston qui est sixième génération qui reprend ça.
Et au départ, vous fabriquez quoi?
Ce qu'on appelle des arcades pour métier jacquard. C'est-à-dire, c'est des fils mécaniques qui vont entre la mécanique jacquard qui se trouve en haut et le métier à tisser qui est en dessous pour pouvoir lever différents fils. Donc ça, c'était l'origine. Et après, on a fait tout ce qui était pour le textile. On nettoie des armes aussi, là, maintenant. Bon, c'est assez récent. C'est de la mèche de différentes grosseurs, poursuivant les calibres de canon. Et on a donc une baguette soupe aussi, en textile. Au bout, comment je vais vous dire ça, on a un œillet, et on passe la mèche. Donc, c'est-à-dire qu'on enfile d'abord la baguette par la bouche du canon, et il ne faut pas démonter l'arme. Comme c'est souple, on peut la sortir, on met la mèche, et ensuite, on tire. Donc la mèche est calibrée, c'est une forte pression dans le canon, et on tire et on envoie la saleté dehors, et non plus vers la mécanique, vers la culasse. Et maintenant, on fait aussi des menottes, ça c'est une demande, à la suite, parce que les menottes métalliques blessaient les poignets des gens. Alors pour éviter ça, on fait des menottes textiles qui, premièrement, ne blessent pas, et deuxièmement, si il y avait une blessure quand même, qu'il y a du sang, comme une fois l'utilisation, on les coupe et on jette, ils ne risquent pas de transmettre le sida, éventuellement. Il faut passer, on a une fois le fait pour le pape. Quand il est venu en France, il a fallu faire des cordons pour prendre des petites étiquettes avec des tas de références. Et on a eu ce marché-là. On a fait la corde, on l'a coupée à chaud, et on a mis par paquet de, je crois que c'est des paquets de 20. Donc tout ça, au lieu de simplement du fil, on a fait des annexes de plus. Je suis la cinquième génération, j'ai le fiston qui est sixième génération qui reprend ça.
Voilà. Et biker.
Ça a toujours été un rêve de gosse
d'avoir une Harley, le bruit, le look Harley, voilà. Et j'ai passé mon permis moto parce que mes parents, mon père, mes oncles, tout ça était dans la moto. Mes fils, ma fille, tout le monde, on a tous le permis moto. C'est une folie. Et moi, il y a un bon 10 ans, j'ai pu avoir ma première Harley. Et puis depuis, bon, ça fait la 5e, je crois. 5e Harley que j'ai. Et on fait des sacrés voyages. Pour vous donner un ordre d'idée, ma femme a acheté une moto l'année passée. Et elle en a 20 000 km.
Regardez.
Excusez-moi, je me fais toujours des
voilà. Idées. La troisième génération.
Si longtemps, bonjour.
Allez. Alors. C'est aussi Emmanuel. 6e génération. Voilà. Ouais, vous allez pouvoir. Voilà. Et qui roule en Harley aussi. Hein.
Et alors, comment vous avez rencontré la Harley?
Ben parce que je suis montée derrière mon mari sur un 8,80 Trauger sans suspension. On est allé faire 3 jours en Angleterre. J'ai eu énormément mal aux fesses, mais j'ai adoré l'ambiance motard. Et quand je suis rentrée, on est allé acheter une 125 pour voir si j'aimerais. Et puis voilà. L'aventure a commencé.
C'est indiscret de vous demander à quel âge vous avez rencontré... la moto.
56 ans.
Et vous aviez le permis?
Non, j'ai fait que je le passe.
À 56 ans?
À 57. Un an après. Avec mes petits-enfants sur le parking, ça a beaucoup étonné l'inspecteur. Il fallait du monde pour me remonter le moral, parce que j'avais quand même... Ouais.
Qu'est-ce que vous avez découvert sur une moto?
Alors, la première chose, l'impression de liberté. Même plaisir que sur les skis. Le vent, les odeurs et une grande impression de liberté. Et puis, ben, en fait, on ne peut pas trop l'esprit, on ne peut pas vagabonder, on ne peut pas penser à autre chose. Une moto, il faut penser à sa conduite, point. Très bon quand il y a du stress, du bonheur. Après une journée stressante de boulot ou les enfants qui sont chiants, enfin, vous voyez tout ce qu'on peut avoir dans une vie. Et prenez la moto, dans les 10 minutes, c'est fini. C'est fini.
Le vendredi soir, exemple, après une semaine de travail comme ça, de dire, bon, allez, on va se faire un tour. Puis on s'en va, à, je sais pas moi, 40, 50, 100 km de là, on va manger une frite, ou un truc comme ça, et puis et on revient tranquillement. Mais là, c'est fini, on peut plus penser au boulot, on peut plus rien penser, c'est fini, c'est la moto, c'est le... Voilà, il fait bon le soir comme ça, enfin 6h ou 5h ou 6h, c'est encore agréable à rouler, fait pas trop chaud, puis... C'est ça.
En même temps, vous le dites vous-même, c'est une conduite assez calme, assez tranquille. C'est pas le coup de la vitesse.
Ouais. Calme, mais on allume quand même un petit peu. Faut pas exagérer non plus. Hein. On n'est pas vraiment en 50 en ville encore. Quand on est vraiment, on fait gaffe, hein, puisque ça peut traverser. Mais bon, si les flics écoutent pas, je vous dirais quand même, de temps en temps, on allume un peu quand même.
Il fallait aller plus loin, donc vous avez commencé à voyager avec votre mari.
Tout à fait. Oui, bon, j'emmène mon porte-bagages, parce que lui a des sacoches, moi j'en ai pas. Moi, il n'y a rien sur ma moto, même pas une brosse à dents, je mets.
Et donc vous êtes parti très loin.
Oui, nous sommes allés aux États-Unis, l'Australie. Après, on ne peut plus aller beaucoup plus loin. Ou alors on est sur la route du retour.
Des kilomètres et des kilomètres à moto.
Oui, et c'est le bonheur. Et même, et surtout, pas des grosses villes, la nature, paysage, et puis pas oublier qu'il faut piloter. Toujours. Toujours. Toujours.
Thank you.
Avec un réflexe, on ne voit que le cadre, on ne voit pas les gens, les éléments qui vont rentrer dans l'image. Avec un Leica M, on voit tout ce qui va rentrer. Donc on peut absolument, si vous voulez prendre que la roue avant d'une moto sur le côté droit, vous prendrez que la roue avant d'une moto sur le côté droit. Alors avec un réflexe, non. Donc dans la composition de ces images, le Leica M permet des choses qui n'est pas possible avec un réflexe. Alors évidemment, je travaille en noir et blanc, je travaille avec des courtes focales. Mon Leica est irremplaçable. Et puis vous êtes tellement accosté quand vous vous promenez avec des Leica M, tout le monde vous arrête pour vous dire que vous avez de belles machines, de beaux appareils, que ça vous encourage à continuer parce qu'on est plus beaucoup.
Voilà, oui. N'ayez pas peur, surtout, c'est normal. Hein. Je découvre un peu avec vous parce que j'avais vu ce lot de motos il y a longtemps et. Bon, mais. Pour toute récupération, faut pas être pressé, hein. Faut attendre que ça se fasse. Bon, il y a un peu des pièces qui tombent quand on ouvre la porte. Voilà, vous voyez, des cartons de phares, des phares à acétylène qui sont très jolis. Hein. Enfin, moi, je les trouve très jolis, évidemment. C'est sûr que pour certaines personnes, ça n'a pas un grand intérêt. Il y a de quoi faire. Hein.
C'est couvert de poussière, c'est couvert de rouille.
Ouais, ben la poussière, c'est pas très grave. Hein. La rouille, c'est un peu plus embêtant. Mais c'est vrai que quand on restaure, c'est pas trop gênant. Ce qui est important, c'est que ça soit complet.
Et quand vous voyez ça, vous voyez immédiatement la destination. Vous dites ça, je vais...
Ah oui, ça... Bon, il y a un peu le côté rêve, fabuleux. Je me dis, ça y est, ça va aller sur telle moto. Ça, c'est telle moto, magnifique. Je suis content, quoi. C'est comme un petit garçon qui découvre ses jouets à Noël, là. Jouer un peu poussiéreux, mais enfin, et rouillé.
Cabossé.
Et cabossé, ouais. Ah, mais si ça arrivait trop beau, ça serait pas intéressant. Et... c'est plus facile que ça arrive. On va aller voir l'autre remorque, j'ai vu qu'il y avait une autre remorque comme ça, je découvre un peu aussi. Ah, celles-là sont plus belles déjà, ouais. Ça fait 3 de plus. Vous êtes à Sainte-Tulle, petit village des Alpes de Haute-Provence. Je suis agent EDF et je m'appelle Claude Tiano. Et voilà l'atelier. Bon, là, vous avez tous les outils qui sont prêts. Hein.
Alors, il faut me dire quelque chose, parce que là, d'abord, il y a un établi.
Ah, bah là, c'est
il y a un établi. Et il y a un tableau qui est impressionnant.
Oui, ben, il y a des clés un peu de toutes les formes. Il y a des clés pour tout ce qui est français. Et tout ce qui est les clés là-bas, c'est tout ce qui est américain ou anglais. Parce que c'est des dimensions en pouces. Voilà. Un matériel un peu spécialisé pour sortir des roulements, des moyeux. Il faut un peu d'outillage spécialisé pour démonter les moteurs, oui, voilà. Des arraches ou quoi. Et évidemment, quand on n'a pas ce qu'il faut, ben, on a un tour là à côté. Hein, et on fabrique les arraches ou quoi pour sortir les pièces sans les casser, sans les détruire.
Vous fabriquez vos propres outils.
Je fabrique
pas seulement les pièces.
Oui, je fabrique aussi. Oui, il faut adapter, donc il faut fabriquer ses propres outils. Parce que si on force, qu'on démonte. Parce qu'en mécanique, on ne force jamais. Hein, il faut délicatement et. Donc il faut se fabriquer son propre outillage aussi, ça arrive. Hein. Qu'on garde précieusement et qu'on repère pour la prochaine fois parce que ça resserre.
C'est un trésor. Hein. Ben... C'est un trésor parce qu'au fur et à mesure, ça devient...
Oui, mais c'est sans fin aussi. Ben voilà. On rentre dans l'enceinte du musée que j'avais... Avec toutes les machines, alors ça, c'est du début du siècle et ça remonte un peu dans les machines un peu plus récentes.
Bah, il faut donner un peu l'idée de ce que c'est pour quelqu'un qui rentre. D'abord, ça fait combien de mètres carrés
Ça fait 110 mètres carrés.
110 mètres carrés.
110 mètres carrés, il y a 38 motos d'exposées.
Donc ça veut dire qu'il y en a aussi au plafond.
Il y en a qui sont suspendus, ouais, mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop les serrer parce qu'après on ne les voit plus. Et ben, pour gagner de la place, il y en a qui ont été accrochés au plafond. Il va falloir que j'en accroche d'autres d'ailleurs, parce que ça commence à être étroit dedans. Oui, Alcyon, c'est une machine de super sport, 1924, allez, celle-là. Allez, c'est une petite moteur, mais qui marche très bien, ça aussi d'ailleurs, c'est une 250. Par contre, on est très mal assis dessus. Particularité de cette moto, pour se casser le dos, on a une très mauvaise... Alors là, vous voyez tous ces leviers, alors là, évidemment, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Vous avez ici le frein à droite. À gauche, frein avant. Hein. À gauche, ici, cette manette-là, c'est l'embrayage. Ici, vous avez le décompresseur pour le démarrer. Alors, le décompresseur, il sert, vous kickez la pédale, vous cherchez la compression du moteur, ça devient dur, vous appuyez un peu sur la manette pour passer la compression, et après vous appuyez bien fort, pom pom pom, ça part. Là, sur le réservoir, vous avez un petit levier, c'est pour ouvrir l'essence, robinet d'essence. Là, vous avez encore une manette sur le guidon, qu'on tourne, c'est le starter. Là, vous avez un deuxième levier, de l'autre côté du guidon, c'est l'avance à l'allumage, pour faire décaler l'allumage, pour que le point d'étincelle du moteur se fasse à le bon endroit, quand le piston se trouve à la bonne position. Et là, à côté, encore un levier qui sert d'accélérateur. Au milieu du guidon, vous avez une molette, c'est pour durcir la direction, quand la route n'est pas belle ou quoi, vous durcissez la direction. Et encore plus compliqué que ça, c'est les machines début du siècle, parce que c'est tout au volant, et en plus, vous le voyez sur le côté, vous voyez là, il y a une seringue qui sert à envoyer de l'huile dans le moteur. Chose de ne pas oublier, parce que le moteur, il explose, évidemment. Vous voyez, vous avez une seringue, et de temps en temps, quand ça monte, quand il fait très chaud, quand ça force un peu, ben, il faut vite envoyer de l'huile dans le moteur. Et si vous n'avez pas tiré assez vite, ben, vous avez cassé le moteur. Donc, d'où l'inconvénient des ancêtres.
Et alors là
Alors là, évidemment, il y a une Harley Davidson. Tout musée, il faut qu'il y ait des Harley. C'est tellement mythique. Alors celle-là, c'est un modèle de 46. Qui a voyagé, parce que la plupart des machines viennent quand même de la région, il y en a quelques-unes qui viennent de très loin, comme celle-là, qui a été exilée, elle vient de Madagascar. C'est assez facile à restaurer une Harley Davidson, puisqu'il suffit de prendre les part lists de l'époque, et de chercher la référence et de commander la pièce, voilà. En gros, c'est comme ça. C'est pas plus... Et on arrive à trouver la moindre rondelle, le moindre écrou marqué dessus, la signification de l'écrou et tout. Il y a marqué, par exemple, sur les armées militaires, il y a marqué 36CP, ça veut dire Chandler Production, vous voyez, 36. Et c'est tout écrit dessus. On arrive à retrouver les vis d'époque avec des marquages d'époque et tout dessus. Alors, chaque machine a un peu des anecdotes. C'est là, par exemple, que c'est un ami qui l'avait trouvé puisqu'il travaillait pas loin. Et quand je suis allé la chercher chez le papy qu'il avait, il était content que je la récupère parce qu'il savait, mais il en a pleuré quand même quand j'ai récupéré la moto.
Elle ressemble, comme ça, pour un néophyte, elle ressemble à un vélo avec un réservoir.
Oui, c'est ça. Vu la grosseur du cadre et tout, c'était une partie cycle de bicyclette et ils ont adapté un moteur dessus. Et là, l'un des dots de machine pour moi, c'est que le copain qui travaille à côté, le papy lui disait « Tiens, j'ai un vieux vélo ». Il disait non, des vélos, non, ça nous intéresse parce que comme on a des amis qui récupèrent des motos, on est plusieurs. Il disait non, moi un vélo, ça me dit rien. Et c'est le chantier a duré 3 mois où il travaillait du côté du lac de Castillon, pour ceux qui connaissent la région. Et chaque fois il disait ouais, mais il est pas mal ce vélo, c'est un vieux vélo. Il dit non, mais il était vieux, ça me dit rien. Et puis il dit mais tu sais, ce vélo, il avait un moteur avant dedans. Alors là, ah, c'est pas pareil, on vient voir. Et en effet, il lui sort une partie cycle sans le moteur dedans. Il lui participe à ce tiro de mes endroits, puisque le moteur, ils avaient cassé le moteur. Ils avaient sorti le moteur, le réservoir, et ils avaient laissé que pour pédaler comme ça, pour se déplacer. Et donc, il a donné la partie cycle avec les morceaux du moteur, parce que le moteur était démonté. Et ça durait encore au moins 3 mois avant de récupérer la pompe à huile, la selle, le pot d'échappement, parce que c'est immense, c'est une ancienne minoterie, c'est immense ce bâtiment. Et il a mis un peu des pièces un peu de partout, et bon, là maintenant ça fait 3 ou 4 ans, peut-être même plus, on attend toujours le guidon, mais je crois que c'est foutu, il ne le trouvera plus. Là, c'est plutôt un coin pour la mode, hein. Avec pas mal de robes, des accessoires, des bijoux, des ombrelles, des chaussures. Alors, vous pouvez remarquer aussi que tous mes mannequins ils tiennent sur leurs pieds.
Hein. Oui, par quel miracle.
Et beaucoup de travail. Je récupère des chaussures modernes que je moule dedans, qui correspondent à la pointure des chaussures anciennes. Et après, j'adapte ça sur le mannequin. Bon, les mannequins sont très grands, moi, les mannequins correspondent aux habits, donc je coupe les bras, les jambes. Voilà. Après, je remonte tout ça avec de la résine, je pose comme un peu dans la carrosserie, hein. Je peins et je maquille, et puis voilà, donc ils ressortent aux bonnes dimensions, bien proportionnés, parce que c'est vrai que les mannequins qu'on trouve maintenant, ils sont très très grands et on peut pas les habiller, c'est pas possible. Puis ils ont toujours des socles en ferraille ou quoi, tandis que là, au moins, je peux les mettre n'importe où, ils tiennent dans leurs chaussures. Voilà.
Amusez-vous à regarder les boîtiers de Leica des photographes. Vous verrez que sur la partie au niveau du pouce, sur la partie supérieure au niveau du pouce, c'est usé. Parce qu'on passe son temps à le caresser. Et donc, cette partie-là est beaucoup plus usée que les autres. Parce qu'on tient un Leica dans la paume de la main avec le pouce sur l'angle supérieur. Et cette partie est usée, donc on la caresse en permanence. Il y a une sorte de... Oui, une jouissance d'avoir les cas dans les mains. Mais quand je me suis acheté mon premier Leica, le photographe m'a dit, un Leica, ça ne s'achète pas, ça se mérite. Alors je ne sais pas si je mérite.
C'est une maxime qui rêve aussi aux bikers.
Je pense qu'une Harley, ça ne s'achète pas, ça se mérite aussi. Tu vois, regarde le coin, il est... Et pourtant, c'est qu'avec le doigt, tu arrives à lever la peinture du bord de l'Erika parce qu'on le caresse en permanence. Voilà. Voilà mon bébé, à moi. Et oui, quand on a touché à ça, c'est difficile.
La moto, c'est vraiment un plaisir égoïste pour moi. Je supporte pas d'avoir quelqu'un derrière quand je roule la moto. C'est vraiment bon parce que, enfin, à la fois je supporte pas, puis je trouve que c'est assez chiant d'être finalement derrière un mec qui pense qu'il y a une chose, c'est de conduire. Enfin, je veux dire, donc, bon, c'est à double sens. Je veux dire, bon, pendant le trajet, il y a rien qui se passe, quoi. On peut pas parler parce que ça fait du bruit, parce que c'est pas pratique, parce que ceci. Donc moi je suis un motard solitaire. Même si elle est très jolie. Bon, fou, c'est... Je trouve que je suis vachement plus beau tout seul avec ma moto, quoi.
% bikers avec Charlie Lecache, Gabriel Dujardin dit Tonton Gabi, Jean-Louis Lemaître dit Le Diable, Frédéric Tomayan de la société Asgard Nordic Spirit à Marseille, Ghislaine Noël, Robert Monté dit Pépé, Éric Martin Sic dit Riton, Philippe Mazingue, Monsieur et Madame Sigier, Claude Tiano, responsable du musée 3M à Sainte-Tulle. Un merci particulier à Thierry Boss de la société Time Killer Product Armentière et au photographe Bernard de Tournadre. Le travail que Bernard de Tournadre a consacré aux bikers américains et français paraîtra en album aux éditions Parenthèse à l'automne 2004. Équipe de réalisation, Étienne Leroy, Yves Lehorse, Alain Joubert, Angélique Thibault, Michel Vignard. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 mars 2004. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».